La méditation proposée est à Adrienne von Speer. Adrienne von Speer est une stigmatisée de Suisse, qui était protestante, qui est devenue catholique. Elle est morte elle s'est endormie à la fin du concile de Vatican II, 1967. Alors, Jésus, dans l'évangile du 23e dimanche, lève les yeux vers le ciel et il soupire. Et il va avec son doigt mettre son doigt dans sa bouche, sur sa langue, prendre de la salive et mettre de la salive dans la langue de celui qui est muet, quoi, et sourd. Évidemment que ce sourd-muet représente l'humanité tout entière, la nature humaine, quoi. À un moment donné, la nature humaine, même avec la rédemption du Christ, même avec la croix du Christ, même avec les sacrements, ne donne pas son véritable fruit terminal, quoi. Ça, il est nécessaire qu'il y ait un réengendrement, une nouvelle création de la terre, une nouvelle création, une nouvelle Pentecôte de la langue, où Saint-Esprit recrée, veni creator spiritus, où Saint-Esprit va créer une langue nouvelle, embrasée à partir de ce moment où Jésus aura mis sa salive de créateur à l'intérieur de la langue apostolique, de la langue humaine, de la langue qui proclame le bon évangile de Dieu. Du moment où tout sera ouvert dans notre corps spirituel pour écouter Saint-Esprit, à ce moment-là, la créateur du Christ, quand il prend la salive, c'est simplement il invoque l'Esprit Saint, il monte, il regarde vers le Père, et il jette ses yeux vers le ciel. Et il va agir avec le Père et le Saint-Esprit, comme Dieu vivant, en créateur, servi de la salive. Et la terre boise, rouge, comme le sang s'est mêlé à la boue. Et c'est avec la salive qu'il crée Adam, et qu'il donne une forme nouvelle. C'est la différence entre la forme de cette boue de sang rouge et de terre, la Dama, entre les doigts de Dieu, du Messie, du Christ, qui est la conjonction de tous les âges de la nature humaine, le Père, celle du Christ et celle du Saint-Esprit, crée la nature humaine. C'est incroyable la différence qu'il y a entre la forme de cette Adama, de cette roue, de cette poussière mêlée de salive et de sang. Quand avec sa salive, Dieu, dans la Genèse, produit la forme parfaite de la nature humaine, c'est pour, en vue de son accomplissement, dans le troisième âge, de l'humanité. Voilà, alors, toujours la salive, toujours. Quand Jésus prend la salive, il manifeste, il dévoile qu'il est le créateur du monde. Mais il n'est pas le Créateur du monde, tout seul. Il y a le Père et il y a le Saint-Esprit. Alors, on va lire un petit peu ce qu'on nous propose comme méditation d'Adrienne von Speer. En touchant à la salive, la langue de l'humanité muette, et pas muette en fait, hein. Il est sourd, il n'entend rien. Il est sourd, mais il parle, mais. Enfin, c'est audible, mais c'est pas du tout limpide comme parole. Il parle, mais très 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 mal, de manière très très embrouillée. Il n'est pas complètement muet. Et il a de la difficulté à parler. L'Église d'aujourd'hui, l'Église depuis 2000 ans, elle s'exprime, bien sûr, mais elle a de la difficulté à parler. On le voit bien. La langue de l'Église, elle porte à l'intérieur d'elle-même l'infaillibilité de Dieu, mais elle a du mal à la transmettre. À cause de la surdité totale de la nature humaine qu'elle traverse comme on traverse la mer Rouge. Et donc l'annonce du dernier âge de l'Église, la Jérusalem nouvelle accomplie, où la langue de la nature humaine et la puissance du Père, du Fils, du Saint-Esprit n'ont plus de distance entre elles, ce qui est porté de l'intérieur par la grâce du Christ et ce qui est manifesté dans le monde. Il n'y a plus aucun voile entre les deux. C'est le mariage spirituel de l'Église en entier avec le Saint-Esprit et qui est l'œuvre du Christ, l'œuvre de Jésus. Il soupire quand il donne son dernier souffle, en jetant les yeux vers le Père, il lève les yeux vers le Père et soupire. Et comme dit Saint Jean, il donne l'eau de la salive, le sang de la grâce éternelle et l'Esprit Saint. Et Jésus, en faisant ce miracle, il explicite qu'est-ce que le doigt de Dieu qui est en lui, à droite et à gauche, dans la nature et dans l'éternité. Voilà, on cherche à se joindre à tous les deux. Mais il n'est pas seul. Il n'est pas Dieu à lui tout seul. Il ne fait pas ces choses-là tout seul. Il les fait avec le Père. Et c'est l'Esprit Saint qui, avec le Père et le Fils, va créer l'Église dans son accomplissement. L'Église de la Pentecôte. Et comme le Fils a eu, Jésus pour se manifester, le Saint-Esprit va avoir l'Immaculée Conception dans sa Pentecôte. Et dans l'ouverture de l'Église à la fin des temps et à l'accomplissement des temps pour se manifester. Alors, voyons ce que dit Adrienne von Speer. Ce miracle est une sorte de miracle eucharistique. Jésus lève les yeux vers le Père. C'est comme s'il ne voulait jamais opérer un seul miracle à lui tout seul, mais toujours dans, au cœur de la très sainte Trinité. Le Père et l'Esprit Saint sont au ciel lui-même, comme homme dans le monde, il est venu dans le monde, Dieu le Fils. Il a toujours accès au ciel, dont il est la puissance, la présence. Il a toujours accès au ciel. C'est vrai, il n'y a strictement aucune séparation entre Jésus et sa divinité, et entre sa divinité et la divinité du Père, et entre la divinité du Père et du Fils et la divinité du Saint-Esprit, strictement aucun voile. Depuis le premier instant de sa conception, Jésus est la manifestation du ciel sans aucun voile. Il est dans la vision béatifique dès le premier instant de sa conception humaine, de sa nature humaine. Mais l'œuvre qui est la sienne ne se manifestera que dans l'acte de la paternité vivante de Dieu à l'intérieur de la Pentecôte du Saint-Esprit, dans l'Église de la fin et de son accomplissement. Parce que Jésus n'est pas seul. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en lui et qui donnent la salive de la création, de la perfection humaine et le sang de la sainteté parfaite du mariage spirituel. Et le Saint-Esprit qui est l'incarnation, qui trouve son incarnation, le vol de la colombe, qui s'envoie, rentre à l'intérieur de Dieu et Dieu à l'intérieur de la nature humaine. Dans toute la nature humaine. L'âge de l'Église est manifesté ici. C'est un miracle eucharistique qui est révélé dans cette guérison du sourd. Elle est complètement sourde, mais sa parole n'a pas encore atteint la perfection de l'Église, de la bonne nouvelle, répandue par toute la terre. Et supprimant tout ce qui est tout ce qui n'est pas immaculé. Tout le mal disparaît de la terre dans l'Église dernière qui est la nôtre. Il y a pour ça, évidemment, avant un soubresaut, un tremblement, une terreur. Ah, voyons ce qu'elle dit donc. Lui-même, comme homme dans le monde, a toujours accès au ciel. Et il faut dire plus que cela. Et lui-même, même comme homme dans le monde, fait descendre le ciel. En venant dans le monde, il fait descendre le ciel, et comme il descend lui-même avec le ciel, pour ne pas venir tout seul. Pour être approuvé, pour laisser prendre part, pour qu'il y ait une participation, une indissoluble unité, une indissolubilité dans l'infaillibilité éternelle de Dieu, dans cette descente de ce qui vient dans le monde et fait descendre en même temps l'unité même de Dieu. Cette manière divine, réciproque, de laisser prendre part, est ce que le Seigneur nous offre aussi à nous, à travers sa vie tout entière. L'indivisibilité de Dieu est une invisibilité intérieure, tout ce que la toute-puissance d'amour, c'est pour ça de Jésus, du Verbe de Dieu, de l'épouser, à créer de Dieu, est en mutation continuelle d'amour et de lumière avec celle du Père, du principe de l'amour incréé éternel de l'aspiration. Et lui-même et de cette sont dans une espèce de tornade d'apparition et de compénétration avec celle du Saint-Esprit, qui en est la jouissance parfaite, l'accomplissement terminal, où il n'y a plus rien à rajouter. Et bien c'est avec ça que Jésus descend Elle vient visiter le monde pour créer l'Église de la fin. Pour créer. C'est une création. C'est avec sa salive. C'est avec son sang. C'est avec la Pentecôte du Saint-Esprit qui embrasse toute la terre, toute la nature humaine pour faire disparaître le mal. Et oui, et du coup, cette manière divine réciproque de laisser prendre part et qu'il y ait une participation, eh bien, il la fait descendre dans la nature humaine et donc la nôtre aussi. La nature humaine, nous l'avons en partage avec lui et nous avons cette participation à la péricorèse du Père, du Saint-Esprit, du Fils dans l'éternité. À travers cela, il nous fait participer et l'Église rentre dans cette participation sans aucun voile. Où le ciel et la terre font cette création, sont les. La participation à la grâce devient une participation à la gloire. Continuons, je m'excuse, je ne devrais pas faire de commentaire d'Adrienne. Eh bien, quand le Seigneur s'offre à nous eucharistiquement, à travers sa vie entière, c'est cela qui nous donne cette participation, cette manière divine de réciprocité continuellement actuée dans l'acte pur de la transformation du monde qu'il opère, car il y a là tout un tissu de relations. Le sourd muet est là, qui s'est laissé conduire passivement, et puis ceux qui l'ont amené sont là. Ils sont actifs. Et puis, au final, les spectateurs, tous ceux qui regardent, voient et viennent, et qui rapportent les faits, le Seigneur aussi est là, Dieu est là, l'homme est là, dans le miracle qui s'opère, dans le mouvement qui le produit, et le ciel aussi tout entier est là. Et il lève les yeux vers le Père qui est là, et toute une participation à perte de vue, on pourrait continuer comme ça tout le temps, à perte de vue, une participation, un partage, Dieu donne tout ce qu'il a, et une participation à perte de vue, donc, dans laquelle chacun participe en plénitude à l'acte. Chacun joue son rôle dans la communion, sans qu'on sache exactement ce qui doit être attribué à qui. C'est joli ça. Eh bien cela, c'est chrétien. C'est le miracle eucharistique. Le Seigneur donne son corps parce qu'il séjourne sur la terre. Il touche physiquement, il ne donne pas seulement sa force divine miraculeuse, il ne refuse pas l'aide des hommes, et en regardant vers le ciel, eh bien, il rend présent la paternité de Dieu dans son âme créateur au fond de chacun d'entre nous, et de l'Esprit Saint et du ciel tout entier, dans l'accomplissement de toutes choses. De la grâce, il nous fait participer à la gloire. De la gloire, il nous fait participer à la grâce originelle, de la perfection de la nature humaine et de la perfection de la nature divine. Dans un mouvement actif et passif, c'est pour ça qu'il y a l'oreille droite, l'oreille gauche, qui nous permet d'entendre, d'écouter. Et nous écoutons au chemin, écoute Israël, la gloire de Dieu. Écoute la gloire. Reçois la grâce et écoute la gloire de Dieu. Shema, il sera le premier commandement de Dieu. Shema, Dieu est un d'amour dans la communion des personnes, dans la participation à la rédemption et à la gloire. Écoute, et la gloire, la cabote d'Elohim, la cabote de Yahshua ben Elohim, qui est inséparable, la cabote de Ben Elohim, du Père, et de Abba Elohim. et du souffle du Saint-Esprit. Écoute la gloire, écoute cette gloire qui est une gloire participée à la nature humaine tout entière de la création. Et la création, c'est le Christ. Et il vient dans le monde et il fait l'Eucharistie qui est la créateur et l'acte rédempteur et l'acte kabodique, le plus grand, celui qui est la clé de voûte, celui qui rassemble tous les autres actes de Dieu au ciel et sur la terre. C'est un miracle eucharistique. Si je pouvais entendre, si je pouvais entendre le chemin Israël, cette participation à la gloire, à la capote de Dieu, cette participation à la gloire de Dieu, c'est la vocation de la création. Si Dieu crée le monde, c'est pour qu'il y ait l'Église. C'est pour qu'il y ait l'Église de la paix, l'Église de la nouvelle Pentecôte, l'Église du monde nouveau, l'Église immaculée, l'Église qui porte la bonne nouvelle à la création tout entière, et à l'acte créateur de Dieu lui-même, et au miracle des trois éléments. Quand on écoute les prophéties, on sait très bien que il a fallu que le figuier soit tordu par la bourrasque pour qu'il y ait le deuxième âge de la rédemption et l'apparition eucharistique du Saint-Esprit du Père dans la nourriture qui rassasie le Père et le Saint-Esprit dans notre monde et dans le monde intérieur de Dieu. Et de la même manière, il faut bien sûr que la vigne qui est l'Église, soit secouée, dévastée, assassinée, enfin, je ne sais pas comment dire. Il faut qu'il y ait une tempête gigantesque qui se fait, une volonté de faire régner la mort universellement sur la terre. Et une tempête qui touche la vie, la mort, qui touche le principe même de la disparition de tout espace entre Dieu et sa création, et une espèce de tentative de destruction au fond du Christ, de Dieu et de l'Église dans sa création. Il faut qu'il y ait cette tornade, et que la vie soit dévastée, et qu'il n'y ait plus aucune possibilité de s'exprimer normalement. Alors qu'on porte la sainteté de la Jérusalem dernière et la vérité de l'Église tout entière. Mais quand vous verrez ces choses-là, alors relevez la tête. Relevez la tête. Relevez la tête, parce que c'est d'un seul coup que le monde nouveau va ouvrir ses portes. C'est d'un seul coup que la paternité de Dieu, qui est au-delà du voile, un véritable sanctuaire, et en même temps, au fond de nous-mêmes, va ouvrir ses portes, le doigt droit et le doigt gauche, dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche, vont comme se conjoindre à l'intérieur de la divinité du Saint-Esprit, de la divinité du Père, dans l'opération de l'Église, qui est la manifestation ultime de la responsabilité de la deuxième personne de la très sainte Trinité, qui est en même temps passive, dans la lumière active, dans la responsabilité et l'aspiration. Et lorsqu'on va entendre et lorsqu'on va être dans cette participation à la grâce et à la gloire de Dieu, les instruments de cette unité, indivisibilité, infaillibilité, invincibilité finale, eh bien nous aurons répondu, nous nous sommes laissés faire. Cette humanité, elle est passive. Le sourd muet est passif. Mais d'un seul coup, la langue se délie. Et l'évangile sera prononcé, non, pas seulement à l'humanité tout entière, mais à la création tout entière. Et bien sûr qu'il y a la tempête. Toutes les prophéties nous ont décrit d'ailleurs. Ces prophéties, cette rage de l'Antichrist et du démon pour essayer de l'empêcher, et on sait très bien que cette rage c'est un déferlement substantiel, presque essentiel, touchant l'essence de la nature métaphysique des choses dans la main de Dieu pour qu'il y ait la mort partout, pour qu'il y ait la terreur partout, pour qu'il y ait la suppression de toute liberté originelle partout, qu'il y ait la suppression de tout rayonnement de l'Église partout. Et bien, contrairement à ce que tous les infidèles de l'Antéchrist peuvent engendrer aujourd'hui dans cette rage de destruction métaphysique qui court comme ça de plus en plus fort depuis 14 ans, depuis le Shekut Simesh même, et qui fait qu'on est suspendu dans un abîme de destruction totale de la vie, de la liberté spirituelle, de la grâce, sont le signe justement de la rage terminale de Lucifer, et nous indique que l'heure de l'Église est arrivée, que l'heure de la Jérusalem dernière est arrivée, que l'heure du monde nouveau est arrivée, le troisième âge de l'Église est arrivé, l'âge où nous ne serons pas à mélanger le vice avec la vie divine de l'Immaculée Conception en nous. Il n'y aura dans l'Église de la Jérusalem qui vient, et dont nous sommes les instruments chaotiques et glorieux, parce qu'on s'y plonge dans cette Jérusalem dernière, et elle descend jusqu'à nous, et tout ce qui s'approche de nous disparaît de la terre, si ce n'est pas l'Immaculée Conception répandue et réengendrée dans la nature humaine tout entière. L'Église ne disparaîtra jamais. La nature humaine ne disparaîtra jamais dans son innocence divine, triomphante. Et elle va crucifier Satan et Lucifer, et l'Antéchrist, et tous leurs infidèles. Elle va les crucifier, elle va les faire disparaître dans l'Aquilon, au fond de l'Aquilon. Et l'Église, le mal, c'est pas une lutte entre le mal et le bien. Parce que ça voudrait dire qu'il y a comme une égalité, il y aurait une égalité. Non, c'est pas une lutte entre le mal et le bien. C'est une victoire permanente de l'Église. L'Eucharistie. Et l'Eucharistie va donner son fruit jusqu'à son acte pur, jusqu'à son accomplissement. Nous rentrons, si nous écoutons, Shema, la Kabbat, la gloire du Christ, créant toutes choses, l'Esprit Saint, créateur de toutes choses, et du Père réengendrant de toutes choses. Dans le temps de l'Église, si nous l'entendons, alors à ce moment-là, notre langue connaîtra la dernière Pentecôte. Elle la connaîtra. L'Évangile sera proclamé toute la terre. Mais attention, quand l'Évangile est proclamé pour toute la terre, c'est eucharistique. Ce sera eucharistique à ce moment-là, parce qu'il y aura transsubstantiation et transactuation métaphysique. Dans l'Évangile proclamé, il réalisera tout ce qu'il signifie. En même temps, et nous sommes les instruments, il faut que nous entendions la cabode, la gloire sensible, la gloire de Dieu. Nous l'entendons. Et nous y participons. Nous sommes une participation à cette gloire, la cabote qui est manifestée nécessairement par l'Église de la fin, parce que l'Église est infaillible, immaculée, une de l'unité du Père et du Saint-Esprit, sainte de la sainteté de celui qui est l'unique saint. Le Saint qui est Dieu, agneau de Dieu, le Saint est parfaitement Saint, le seul Saint, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père, cette participation, c'est une participation eucharistique, c'est une participation contemplative, c'est une participation auditive, c'est une participation sensitive, c'est une participation unitive, c'est une participation fulgurante, invincible. Il n'y a pas égalité entre le bien et le mal. Pas du tout. Le poids de l'Église dans le monde est infiniment plus grand que la poussière misérable des prétentions de Lucifer et de leurs affinités pour la destruction du monde. Et lorsque ce misérable, parce que Satan est un misérable, impitoyable, il est impitoyable et il est pitoyable. C'est une honte substantielle que sa vie éternelle. Il n'est rien à côté d'un seul acte d'un enfant du monde nouveau. Il n'est rien. La tempête qui est celle du monde d'aujourd'hui, où on voit cette volonté de destruction par la mort de l'humanité tout entière, et la destruction aussi de l'existence même, de la présence, de toute forme de présence. Cette tempête qui est celle qui font que les gens ont peur, eh bien, elle trouve sa réponse dans l'Eucharistie de la Jérusalem dernière que nous célébrons aujourd'hui, pour écarter tout ça, et puis d'un seul coup, la salive, le sang et l'Esprit Saint brûlent l'évangélisation du monde, l'évangélisation de la nature même, l'évangélisation de la création, l'évangélisation aussi du principe, du bereshit de la création tout entière, et du coup l'évangélisation, la manifestation de toutes les cette manifestation cabodique dans toutes les profondeurs de chacune des trois personnes de la très sainte Trinité. Nous sommes des instruments de cela très exactement, verticalement, de manière incarnée, totale, universelle, catholique, apostolique. Notre heure est arrivée. N'ayez pas peur. Ouvrez toute grande, Ephata, ouvrez toute grande vos portes au Saint-Esprit. Dans l'Église de l'Immaculée Conception, accomplie. Réalisé. Et voyons son apparition d'un seul coup, comme l'Immaculée Conception a fait son apparition d'un seul coup dans l'histoire de la création, dans la tardeva de l'homme parfait, parfaitement envahi par le désir et l'accomplissement de la rédemption de l'avenir de Dieu. Il devait en être